C'est moi, c'est Lola. Celle qui dit v'là un bateau, v'là un samedi, v'là des matelots.
Personnage en personne par Charles Danzig. Auteur Walt Disney 1901-1966 et Hub Iwerks 1901-1971. Œuvre Steamboat Willie, court-métrage sonore 1928, puis, du vivant de Walt Disney, environ 150 films, courts et longs-métrages. Personnage Mickey. Walt Disney fait partie des artistes rusés. Leur art, quoique indéniable, est toujours entaché d'une intention de réussite moins esthétique que commerciale. Personne n'ignore que l'idée de Walt Disney a toujours été de gagner beaucoup d'argent en distrayant. Il n'est donc pas étonnant que son personnage le plus célèbre, Mickey, ait été réinterprété par un autre monument de ruse, Andy Warhol. Disney est plus inventif que lui, puisque tout de même il a créé des personnages, alors que Warhol n'a jamais fait que reprendre, avec ruse, je ne le dirai jamais assez, des personnages, tel Mickey, ou des personnes célèbres, telle Marilyn Monroe, jouant avec une certaine duplicité sur l'apparente critique de l'empire du commerce, tout en s'en servant pour attirer les regards et l'argent à lui. Un fait pour moi stupéfiant de la culture populaire américaine est sa propension à présenter la brutalité comme une chose amusante. Popeye en est un exemple. Il avale ses épinards, gonfle ses muscles, casse la figure à quelqu'un et repart en sifflotant. Les westerns semblent ne pas pouvoir exister sans bagarre. Les films d'aventure, n'en parlons pas, ou quand on ne casse pas la mâchoire de ses adversaires, c'est la carrosserie de 20 voitures. Tout cela participe peut-être d'une morale qui a servi le machisme américain « Boys will be boys », une de ces phrases qui servent toujours à excuser la brutalité, un peu comme quand un homme vous dit « j'ai trois enfants », il cherche souvent à excuser un comportement bizarre. Malgré tout cela, ou qui sait, à cause de tout cela, et aussi d'un investissement publicitaire magistral, Mickey est devenu un personnage universel. Il a d'ailleurs changé de comportement au fur et à mesure de sa carrière, démolissant moins et moralisant plus. Qui est Mickey ? Pour en parler, je reçois Philippe Dana, journaliste qui publie ces jours-ci « Au pays des Toons » chez Kero. Philippe Dana, nous n'allons pas longuement raconter l'histoire de la création de Mickey, car elle est tellement répétée que je crois que tout le monde la connaît, elle est même un peu légendaire. Je me demande aussi, d'ailleurs, vous qui êtes journaliste, si quelqu'un a jamais enquêté sur la véracité de la création de Mickey, parce qu'on la répète toujours.
Alors, il y a des sources, évidemment, qui sont nombreuses, mais qui sont pas toujours, qui ne concordent pas toutes. En tout cas, ce qui est évident, c'est que vraisemblablement, la naissance de Mickey, c'est la naissance d'un personnage après une grande défaite, car Walt Disney, qui est arrivé à Hollywood au début des années 20, en provenance de Kansas City.
Tout jeune homme,
il a rejoint son frère Roy, qui était déjà sur place, et tous les deux veulent dynamiter un peu le monde de l'animation, qui se situe plutôt à New York, avec le studio des frères Fleischer. Donc lorsque Walt Disney arrive à Los Angeles, à Hollywood, il décide de se plonger dans le monde de l'animation et de créer des personnages, et il obtient très vite un premier contrat pour créer Alice Comedies. Alice, ça marche bien, il a trouvé une distributrice new-yorkaise, Margaret Winkler, qui travaille bien avec lui et qui lui commande un deuxième personnage, et c'est de là que va arriver Mickey. Ce deuxième personnage s'appelle Oswald le Lapin, Oswald the Rabbit, et ça marche plutôt bien. D'ailleurs, l'entreprise Disney grossit, il a des studios sur Hyperion Avenue, il emploie des dizaines de personnes, animateurs, intervallistes, et puis il doit négocier...
Qu'est-ce que c'est un intervalliste ?
Un intervalliste, c'est quelqu'un qui dessine les plans, il y a 24 images par seconde pour un dessin animé, le réalisateur travaille avec les animateurs font les dessins principaux, mais pour relier ces dessins principaux, les principales phases de l'action, eh bien on a inventé le métier d'intervalliste. Disons que c'est le bas de l'échelle dans ces métiers. Oui, absolument. Et chez Disney, d'ailleurs, on y reviendra peut-être tout à l'heure, il y avait un fonctionnement industriel très poussé dans lequel tous les corps de métier étaient représentés. Mais enfin bref, pour revenir à Oswald le Lapin, il faut que Disney renégocie les droits avec celui qui lui a commandé le personnage, le distributeur, la distributrice new-yorkaise Margaret Winkler, qui entre-temps s'est mariée avec un monsieur qui s'appelle Charles Mintz, et c'est lui qui négocie avec Disney. Et il n'est pas commode, il n'est pas facile du tout en affaires, et il obtient une baisse de 20% des revenus des royalties pour Walt Disney. Et surtout, en sous-main, il essaye de débaucher une grande partie des animateurs et de l'équipe qui travaille avec Disney pour animer et faire lui-même le personnage. Donc Disney perd une grosse partie et en fait, il n'a plus rien. Il est dans le train qui le ramène de New York.
Pardon,
où a
mais
lieu
il n'avait pas
négociation.
Les droits du personnage?
Non, et d'ailleurs Charles Mintz non plus, car les droits du personnage avaient été commandés par Universal Studios, qui était une des grosses majors d'Hollywood. Et Carl Laemmle, le magnat de Universal, finira d'ailleurs par écarter aussi Charles Mintz quelques mois plus tard. Bref, l'arroseur arrosé. Dans le train qui le ramène de New York vers Los Angeles, Disney a tout perdu et il cherche donc un nouveau personnage. Et c'est à ce moment-là qu'il va penser à une souris, car Mickey est une souris, et qui devait d'ailleurs s'appeler Mortimer. Et c'est la femme de Walt Disney qui a trouvé que Mickey était un nom plus approprié.
Mais Mickey, c'était déjà un prénom ?
C'est-à-dire un prénom
existant dans la vie courante des êtres. Parce que moi, je connais l'acteur Mickey Rooney.
Mickey
par
Rooney, on connaît tous Mickey Rooney.
Voilà.
Je connais pas d'autres Mickey.
Donc, est-ce que c'est un nom inventé ? On le sait, ça ?
Je ne le sais pas.
Vous m'avez parlé au tout début du monde de l'animation au moment de Walt Disney. C'était intéressant. Qu'est-ce que c'était les personnages à ce moment-là, au moment où Mickey, nous n'y sommes pas encore tout à fait arrivés, va être créé ? Quels étaient les personnages populaires ?
Le principal personnage le plus populaire, c'est Félix le chat. Félix le chat, il a été également créé à New York dans les studios Terry Toons, et c'est avec une poupée à l'effigie de Félix le chat que d'ailleurs Charles Lindbergh traverse l'Atlantique et donc crée le premier exploit qui va fasciner les Américains. Et vous avez mentionné tout à l'heure dans la présentation Steamboat Willie, qui est la date de naissance officielle de Mickey, le 13 novembre 1928. Mais en fait, Walt Disney a réalisé deux autres films précédemment, l'un qui s'appelle Plain Crazy et qui est justement inspiré par le voyage de Lindbergh avec la petite peluche de Félix le chat à côté de lui. Et le deuxième s'appelle Galloping Gaucho. Mais tous deux sont des films muets.
Ouais.
Et en fait, la victoire de Disney, le coup de génie, le coup de poker, c'est d'utiliser le son.
Et d'ailleurs, je crois que pendant plusieurs années et très longtemps, la voix de Mickey sera celle de Disney, c'est vrai ?
C'est Walt Disney qui fait la voix de Mickey dès le départ. Ça va durer plusieurs années, les 4 ou 5 premières années de mémoire. Et puis ensuite, d'autres voix se succéderont parce que Disney fumait énormément. Il fumait 3 paquets de cigarettes par jour. Il en est mort d'ailleurs, il a eu un cancer du poumon. Et à un moment donné, il n'était plus en mesure de prendre cette voix un peu de fausset qui est celle de Mickey. Puis il y a un autre studio qui est fondamental, qui est le studio de Max et Dave Fleischer. Max et Dave Fleischer, ils sont également installés à New York. Ils vont se faire connaître, ils se sont déjà fait connaître avec Coco le clown. Et Coco le clown, c'est amusant parce que Max Fleischer le présentait, était lui-même à l'image, et Coco le clown était incrusté à ses côtés, venait, comme nous sommes dans ce studio, il aurait pu venir le dessiner sur la table devant laquelle nous sommes. Il incrustait le personnage dans l'image. Mais la grande star des frères Fleischer va arriver juste après Mickey, c'est Betty Boop. Puis ensuite viendront d'autres personnages, le plus célèbre d'entre eux, qui était d'ailleurs un personnage de BD au départ, c'est Popeye. Et puis il y aura Superman. C'est une autre histoire.
Félix le chat n'était pas un personnage de BD au départ.
Félix le chat était un personnage de BD. La plupart des personnages en fait qui sont arrivés au cinéma d'animation étaient nés dans les strips des grands quotidiens américains, notamment dans les quotidiens publiés par William Randolph Hearst, qui a été le personnage mythique de la presse américaine que Orson Welles a représenté dans Citizen Kane. Donc en fait, ils viennent tous plus ou moins de ces strips, comic strips du dimanche. Mais dès l'instant où on a réalisé qu'on pouvait animer tous ces personnages, le dessin animé a pris son essor. Et ça date des années 20.
Est-ce que Mickey est un des premiers personnages de ex nihilo, de création pure, qui ne soit pas transporté des comics ?
Absolument. C'est un, comme l'est d'ailleurs Oswald le Lapin, la précédente création de Walt Disney. Disney est sur des créations originales.
Et donc, vous disiez que ce qui a fait son triomphe, car je crois que ça a triomphé très vite, c'est le fait que ça soit sonore et qu'il y ait une voix.
Ah oui, c'est fondamental. C'est-à-dire que on est vraiment à la charnière de cette période où on passe du cinéma muet au talkies. En 1927, la Warner sort un film qui s'appelle Le Chanteur de Jazz avec Al Jolson. Et à ce moment-là, les spectateurs découvrent le parlant. Et le coup de génie de Walt Disney qui vient quand même de sortir 2 dessins animés dans l'indifférence générale. Plain Crazy, Galloping Gaucho. Le troisième, Steamboat Willie, il décide de tout miser dessus. Il va voir des gens spécialisés dans le son, justement à New York. Il sonorise le dessin animé et lorsqu'il est projeté, c'est un événement considérable. C'est-à-dire que les spectateurs dans les salles demandent qu'on repasse le film, qu'on re-repasse le film, tellement il y a eu un choc fondamental de l'arrivée du parlant.
Alors, ça n'est pas tout à fait pour rien que je parlais d'Andy Warhol dans ma présentation, parce qu'il y a une chose très intéressante dans Steamboat Willie et dans plusieurs films de Mickey, c'est que il y a une parodie dans ces films. Dans Steamboat Willie, on le sait, est en partie une parodie d'un film de Buster Keaton. Et ça arrive, on a relevé, c'est pas moi qui l'ai fait, on a relevé un nombre incalculable de situations dans les films de Disney qui faisaient référence à des films hollywoodiens. Donc, le côté malin de Disney, c'est qu'il utilisait déjà une culture populaire assez ancrée.
Alors, il utilise une culture populaire assez ancrée, une culture populaire américaine, une culture populaire européenne qui lui servira pour les longs métrages, pour Blanche-Neige, par exemple. Donc, il s'inscrit effectivement...
Ils arrivent quand, les longs métrages?
Alors, le long métrage, c'est l'étape d'après. Donc, c'est 1937 pour Blanche-Neige et les Sept Nains, qui est le nouveau pas. En fait, Mickey, c'est le premier pari de Disney. Le deuxième pari de Disney, ce sont les Silly Symphonies, c'est-à-dire à partir des années, milieu des années 30, 1932, 33. Eh bien, il y a des dessins animés souvent en couleur, car il a l'exclusivité du Technicolor pendant 3 ans, contrairement aux autres studios. Donc, il joue à fond sur la couleur. Et là, c'est le deuxième pari, les Silly Symphonies. Mickey continue ses aventures avec ses partenaires sur lesquels on reviendra. Mais Mickey est déjà installé. Et le troisième coup de Disney, c'est de dire, la prochaine étape, c'est le long métrage d'animation, quelque chose qui n'a jamais été fait et qui va stupéfier les spectateurs, ce qui sera le cas.
Et c'est Blanche-Neige, donc, le premier.
1937, Blanche-Neige.
Alors, ce qui est intéressant pour revenir à Mickey et à ses débuts, c'est que, au début, il est assez puéril et enfantin, assez capricieux, et il y a une chose qui m'a frappé, c'est que beaucoup des titres de ces films américains comportent le mot kid, de Cactus Kid, de Klondike Kid, et ça m'a rappelé quelqu'un qui s'appelait le Kid aussi, et qui était assez mauvais caractère aussi, c'était le Charlot de Chaplin.
Alors, Mickey est le successeur de Charlot, en quelque sorte. Et de la même façon que D.W. Griffith a marqué les années 10 dans le cinéma, de la même façon que Chaplin a marqué les années 20, celui qui marque les années 30, c'est justement Walt Disney et ses films. Mais Walt Disney a observé Buster Keaton. Walt Disney a observé Chaplin. Dans les rues d'Hollywood où il se balade, les tournages se passent dans la rue, donc on les voit. Ces metteurs en scène, ces génies que sont Harold Lloyd, Max Sennett, etc. Donc Disney est aux premières loges, en quelque sorte.
La morphologie de Mickey a un peu évolué. Je crois que dans Steamboat Willie, il a encore une apparence de souris. Son museau est relativement long. Comment ça s'est passé, le perfectionnement physique de Mickey, si je puis dire?
Alors, Mickey est très facile à dessiner, en fait. Il y a deux gros cercles. Un pour le corps, un pour la tête. Il y a deux petits cercles pour les oreilles. Il y a les tubes qui font les bras et les jambes. Et puis, il y a les pattes qui sont assez longues avec une paire de chaussures. Par la suite, il s'est un peu, il a mûri et on lui a rajouté une paire de gants blancs. Et vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, comme les films étaient en noir et blanc, il fallait pouvoir distinguer quand Mickey jouait du piano, par exemple, qu'on puisse voir ses mains sur les touches, sur le clavier, dans des films en noir et blanc. Après, les films sont passés en Technicolor, en couleur, et après sa carrière a... Mais le point fondamental, c'est qu'effectivement, il a évolué physiquement. Mais ça s'est fait relativement vite, c'est-à-dire qu'entre 1928, date de naissance, et 1940, Fantasia, qui est l'apprenti sorcier avec justement Mickey, tout le travail a été fait.
Alors, je trouve, mais peut-être que je me trompe, qu'il a eu une évolution de comportement. Il y a beaucoup de films au début où il est vraiment teigneux, par exemple un court-métrage où il se sert d'animaux pour faire de la musique, il tire sur la queue d'une chèvre, il tape sur les dents d'une vache pour en faire un piano, il se sert d'une guêpe pour piquer un cheval, et il est assez teigneux et désagréable. Et après, j'ai l'impression que peut-être à cause du succès, qu'il faut que ça plaise à tout le monde, il devient plus sucré.
Ben vous avez répondu à la question. En fait, c'est effectivement son succès, son côté très populaire qui le rend de plus en plus consensuel. Donc comme il est consensuel. D'ailleurs, Walt Disney finit par l'utiliser beaucoup moins à la fin des années 30. Mickey intervient beaucoup moins dans les cartoons. C'est son entourage, c'est Donald, c'est Pluto, c'est son épouse Minnie qui apparaissent, c'est Dingo. Mais Mickey, comme il est la star et en même temps il est la tête d'affiche du studio, c'est-à-dire la représentation du studio Walt Disney, c'est Mickey encore aujourd'hui. Et quand on pense que tout est parti d'une souris et qu'on a abouti à un groupe mondial d'entertainment qui pèse 70 milliards de dollars, tout est parti de la petite souris.
Nous allons maintenant entendre une chanson du film Full Metal Jacket de Stanley Kubrick, The Mickey Mouse March, composée par Jimmy Dodd en 1955. C'était le générique de l'émission télévisée de Mickey Mouse Club, qui est parodié par les soldats sur le champ de bataille au Vietnam. Le film date de
1987. Boys and girls from far and near, you're welcome as can be. MICKEYMOUSE. Who's the leader of the club that's made for you and me? MICKEYMOUSE. Mickey Mouse.
Mickey Mouse.
Mickey Mouse.
Mickey Mouse.
Philippe Dana, nous sommes en train donc de parler du personnage de Mickey qui a été créé par Walt Disney. Et vous me disiez dans la première partie de cette émission que sa carrière s'est un peu effilochée au bout d'un certain nombre d'années, que Disney s'est intéressé ou a mis en avant d'autres personnages. C'est dû à quoi ça ?
Mickey était extrêmement populaire, et extrêmement populaire aux États-Unis, extrêmement populaire dans le monde entier. Il a très vite été le sujet de produits dérivés. On a commencé à faire des montres Mickey, des peluches Mickey, et puis il est devenu aussi un héros de bande dessinée. Et les bandes dessinées de Mickey, ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que pendant la Seconde Guerre mondiale, il était très populaire en Italie, il s'appelle Topolino, Mickey en Italie. Et il est intéressant de voir que jusqu'à 1942, c'est-à-dire jusqu'après l'entrée en guerre des États-Unis après Pearl Harbor, la presse italienne, il y avait les BD de Mickey, étaient distribués en Italie. Car Mussolini était, paraît-il, un grand fan de Mickey. Alors qu'en Allemagne, les aventures de Mickey avaient été censurées.
Je vous interromps une seconde, car je voudrais que vous me racontiez une anecdote assez terrible pour Walt Disney, qui se trouve dans votre livre « Au pays des Toons » et qui a trait à une réalisatrice nazie.
La réalisatrice du régime nazi, c'est Leni Riefenstahl. Et juste après la Nuit de Cristal en 1938, elle effectue une sorte de visite officielle à Hollywood. Elle est boycottée par tout Hollywood. Et le seul metteur en scène qui la reçoit à Hyperion Avenue, c'est Walt Disney.
Sans commentaire. Dans les années 30, nous disiez-vous à l'instant, Philippe Dana, Mickey arrive en Europe, Topolino. En France, je crois que le journal de Mickey est la première, c'est ça, en 1934, et qu'il était interdit en URSS.
Oui, il était interdit en URSS, même si Sergei Eisenstein, un des grands metteurs en scène soviétiques, aimait beaucoup Mickey et avait dit que c'était une grande avancée de l'art avec Mickey.
Philippe Dana, Mickey a été très souvent modifié pour s'adapter au goût du grand public. J'ai trouvé par exemple un Mickey disco à la fin des années 70 où on l'avait habillé avec des paillettes. Et dans les années 50, Mickey avait eu une période néo-art déco, je crois, à la suite de la mode d'un studio d'animation concurrent qui s'appelait United Productions of America et où son nez était redevenu pointu. Enfin, il est assez plastique aussi pour ça.
Comme tous les personnages d'ailleurs, mais il y a eu beaucoup, vous avez cité Warhol tout à l'heure en tout début d'émission, il y a un dessin animé que j'ai regardé il y a quelques jours, parce que ça m'intéresse toujours de voir les productions un peu marginales, et bien évidemment en dehors des productions Disney, il y a un cartoon qui s'appelle Mickey Mouse in Vietnam, qui est un petit film court d'une minute qui s'est fait vraiment en dehors de Walt Disney, et certainement pas avec son accord, mais qui ancre Mickey Mouse dans l'actualité de la guerre du Vietnam à la fin des années 60. Il y a plein de déclinaisons de Mickey. Mais la raison en est simple, c'est que c'est quand même c'est une incarnation de l'Amérique d'une certaine façon, Mickey. C'est aussi une des facettes de l'Amérique. Il incarne l'Amérique. Quelle Amérique ? Sans doute certainement celle de Walt Disney. Quelle est l'Amérique de Walt Disney ? C'est une Amérique qui est plutôt conservatrice. Je vous rappelle que dans les parcs Disney, il y a le lever du drapeau tous les matins, encore aujourd'hui.
Vous parlez du Vietnam, c'est un moment intéressant pour Mickey aussi. On vient d'entendre la chanson très très sarcastique des soldats américains dans le film de Kubrick. Mais dans un numéro d'août 68, donc en pleine guerre du Vietnam du New York Times, Michener, le romancier James Michener, écrit, et je vais vous demander ce que vous en pensez, je le cite, « Une des influences culturelles les plus désastreuses à avoir jamais frappé l'Amérique est le Mickey Mouse de Walt Disney, un optimiste béat qui chaque semaine monte en technicolor à l'assaut d'un bataillon de chats, les humiliants humiliant invariablement une astuce après l'autre. J'imagine que les dégâts occasionnés à la psyché américaine par cette souris imbécile ne seront estimés que dans 50 ans, mais je considère qu'on peut faire porter la responsabilité du Vietnam à cette attitude stupide glorifiée par nos dessins animés.
C'est quand même très sévère. Je pense que Mickey incarne son père. Son père, c'est Walt Disney. Et Walt Disney, il a une vision très conservatrice de l'Amérique. Je vous rappelle que il a été l'un de ceux qui a témoigné devant la commission des activités anti-américaines. Et il n'a eu de cesse, d'ailleurs, de se débarrasser de tous les animateurs qui avaient fait grève. Il y a eu une grande grève qui est restée célèbre en 1941 au studio Disney, dont l'un des principaux leaders était Art Babbitt, qui était un animateur de chez Walt Disney, qui était notamment le créateur du personnage de Dingo Goofy. Donc Walt Disney, il est conservateur, mais c'est très difficile, enfin... Je pense qu'il faut quand même nuancer le propos, justement, parce que ce n'est pas que ça. C'est aussi quelqu'un qui a apporté énormément à l'histoire du cinéma, parce que le dessin animé américain fait partie intégrante de l'histoire du cinéma. Et ce qu'a réalisé Walt Disney quand il fait Blanche-Neige et les Sept Nains, le premier long métrage d'animation, il ouvre une page fondamentale de l'histoire du cinéma. Donc je pense qu'il faut être relativement nuancé et regarder les bons côtés, les mauvais côtés. Les mauvais côtés, c'est certainement, pour ceux qui aiment la liberté et la démocratie, se dire que le personnage qu'il a créé là, que le monde qu'il a créé, ce Disney America, est une vision relativement... Voilà un mot très modéré, conservatrice de la société.
Alors Mickey, Philippe Dana n'est pas tout seul. Il a un entourage et ça compte aussi dans ce qu'il est calé, cet entourage, les autres personnages qui sont dans la planète, qui... Mickey, si je puis dire.
Déjà, il a une compagne. Alors on ne sait pas s'ils se sont mariés, mais enfin, il est établi que Minnie est l'épouse de Mickey.
Elle est apparue quand ?
Elle est apparue dès le départ. Autour de Mickey, il y a un autre personnage qui est Donald, bien sûr. Il y a Goofy.
Et lui, Donald est apparu rapidement aussi.
Très rapidement aussi. Toute la bande, là, plutôt le chien, Goofy, Dingo. Non, plutôt, il est pas si bête. Imbécile, c'est un peu fort, mais disons qu'il est
un peu sot.
Plutôt, Dingo, Donald, Minnie,
Picsou,
il est plutôt dans les bandes dessinées, plutôt que dans les cartoons. Également apparaît un méchant, patibulaire, Petlek Pit en anglais, mais ils prennent plus d'importance à la fin des années 30. C'est toujours ce tournant où le fait que le personnage soit devenu tellement énorme, tellement populaire dans le monde entier, je le répète, c'est ça qui est frappant, c'est que de Tokyo à Berlin, en passant par Rome, Paris, Buenos Aires.
Avant Gall, il était déjà à Tokyo.
Mickey est connu partout. Mmh. Et c'est la première star mondiale. Donc
ça l'a figé d'une certaine façon.
Bien entendu. Comme d'ailleurs, Betty Boop a été figé. Parce que Betty Boop, qui est apparue en 1929, juste un an après Mickey, les premières années de Betty Boop avec les frères Fleischer, c'est quand même assez rock'n'roll. Il y a des allusions à peine voilée à la cam, enfin c'est quand même...
C'était aussi, avant le code Hays.
Mais le code Hays arrive en 1933, et le code Hays, c'est vraiment le tournant dans le cinéma américain. On pourrait faire là des heures pour en parler, mais enfin...
Mais c'est intéressant parce que ça touche aussi les cartoons.
Mais ça touche complètement les cartoons, puisque le personnage de Betty Boop, c'est celui qui est le plus modifié. Elle était... c'était une femme libre, c'était une femme qui dansait avec les jazzmen dans les dessins animés de Betty Boop, puis à Cap Calloway, et d'un seul coup, le code Hays fait une espèce de femme au foyer avec un petit chien, et les scénarios deviennent totalement inintéressants, et les Betty Boop de la fin des années 30 ne valent vraiment pas ceux du début des années 30. Et c'est donc pareil pour Mickey, c'est le consensus.
Oui, c'est ça. Et ce qui est intéressant dans tous ces personnages de comics et de cartoons qui ont été inventés par Disney et par d'autres, c'est que ça a l'air d'être des personnages pour enfants, mais c'est vu par tout le monde, c'est vu par des adultes. Et en même temps, il y a une chose qui n'apparaît jamais dans ces films, quels qu'ils soient et quels que soient les personnages, alors qu'à contrario, ils apparaissent dans les contes pour enfants qui peuvent être très cruels, c'est la mort. Il n'y a pas la mort.
Il y a une mort, mais il y a une sorte de mort, mais c'est pas la mort.
Quelle sorte de mort ?
Il y a des, quand vous regardez des films de Tex Avery, il y a des personnages qui sont détruits. Alors, est-ce qu'ils sont morts ? Non, ils sont détruits. Il y a effectivement l'absence de... C'est compliqué, parce que Mickey, la bande de Disney, les personnages qui entourent Mickey, c'est plutôt fait pour des enfants. Ça a cette vocation-là. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, chez les autres studios, dans les autres studios, se positionner en tant qu'anti-Disney va fonctionner. C'est ce qui va se passer chez Warner. Tex Avery a fait le début de sa carrière chez Warner. Fritz Freleng, que j'ai évoqué tout à l'heure, a fait sa carrière chez Warner. Chuck Jones, Robert Clampett, Frank Tashlin, qui ensuite a fait des films de long métrage avec Jerry Lewis. Tout ça, c'est l'écurie, entre guillemets, Warner. Et eux ont toujours dit, nous faisons des films pour les adultes. Alors que Disney a plutôt dit, je fais des films qui s'adressent à la part d'enfance de chacun d'entre nous. C'est différent.
Et est-ce que ça n'est pas ça qui a créé une espèce de schizophrénie du public que j'imagine, car il y a une expression que nous employons en français, mais qu'on emploie aussi aux États-Unis et qui se sert du nom de Mickey pour se moquer de quelqu'un. En français, on dit c'est un Mickey.
C'est tout à fait juste. Il y a un exemple qui est connu, c'est le Parrain 2. Le frère de Michael, le frère de Al Pacino, à un moment donné, parle avec Al Pacino et lui dit je faisais ceci, je faisais cela, j'allais ouvrir des clubs Mickey. C'était vraiment dit d'une façon très péjorative. Donc Mickey, effectivement, a eu... C'est l'opposition. Il faut qu'il y ait une opposition à une idée mainstream, consensuelle, qui est celle de Disney. Et donc, la meilleure façon de s'opposer, c'est peut-être de dénigrer.
Et d'ailleurs, à partir des années 60, Mickey a été repris par des BD très mordantes et de manière très sarcastique. Je pense à Ed Roth qui l'a transformé en Ratfink, par exemple, qui est une espèce de double maléfique et dépravé de Mickey. Tout d'un coup, là, il y a eu, au même moment où Michener disait ses paroles très violentes sur Mickey, il y a eu aussi une réappropriation sarcastique et violente.
Mais quelque part, il est l'Uncle Sam. Il représente l'Amérique, Mickey. Donc, d'une certaine façon, si on veut s'opposer à l'Amérique, on peut s'opposer à Mickey. Je crois même que Banksy, récemment, a fait des performances qui étaient... en opposition avec les parcs de Disney.
D'ailleurs, ça serait intéressant. Est-ce que vous savez s'il a été utilisé pour des affiches de conscription? Vous parliez donc de Sam, où il y avait les fameuses affiches « I want you, we need you ». Est-ce qu'on a utilisé par hasard Mickey?
Alors, le personnage de Mickey a plus été utilisé dans les BD pendant la guerre. En revanche, Donald, l'un de son entourage, a été très actif pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a même eu il y a un film qui s'appelle « Der Führer's Face » avec Donald Duck, qui dénonce le régime nazi, et des copies de ce film ont été parachutées par l'aviation américaine en Allemagne juste avant le débarquement.
Philippe Dana, que vous a appris le personnage de Mickey?
Il m'a appris que le monde du cartoon, dont il est certainement l'un des plus emblématiques représentants, fait partie, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais je le pense sincèrement, de notre culture cinématographique. Si on aime le cinéma, eh bien, on aime ce monde des cartoons hollywoodiens parce que ils ont été faits pendant une période que moi j'adore, que j'adore regarder dans les films de long métrage, l'âge d'or d'Hollywood, les années 30, 40, un peu 50. Voilà, ça c'est le moment où le cinéma a été le plus créatif, le plus magnifique, et Mickey m'a appris justement que le monde du dessin animé qui est fait au même moment aux États-Unis s'inscrit dans cette histoire-là avec d'autres. On peut parler une autre émission de Tom et Jerry, on peut parler des autres personnages de la MGM, de Warner, des frères Fleischer que j'ai évoqués, etc.
C'était Personnage en personne, le 128e. Comme si j'ai... Réalisation Clotilde Pivin, chargée d'émission Meryl Moneghetti, prise de son Mathieu Tourin, dans un instant Mathias Sénard et la salle des machines.
De l'autre côté de ma vie, le paradis acquis, c'était un grand jeudi, tous les jours.